autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour un voyage à remonter le temps et les multiples routes qu'ont empruntées nos ancêtres pour peupler la Terre. Depuis les premières pistes du genre Homo jusqu'aux autoroutes d'Homo sapiens, la seule espèce humaine, la nôtre, qui a véritablement colonisé toute la Terre, en passant par tant d'autres espèces humaines qui l'ont un jour habitée et traversée. Ça fait du monde, ça fait des routes et ça fait des hypothèses à remettre toujours en question au fur et à mesure des recherches, des fouilles et des découvertes, comment remonter le fil de notre, de nos humanités et d'une préhistoire aussi complexe que buissonnante, en compagnie du paléoanthropologue Valérie Zeitoun, notre invité, auteur avec le professeur Telmo Pievani de l'Atlas d'Homo sapiens, le premier atlas géographique du peuplement humain sur Terre, édité chez Glénat, que nous vous proposons de feuilleter, d'arpenter ensemble, en mettant de côté tous nos préjugés, toutes nos idées reçues et préconçues, autour de la question comment notre espèce Homo sapiens a peuplé toute la Terre. Bienvenue pour bouleverser l'ordre préhistorique établi, sa chronologie et même sa géographie.
Ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne cesse de bouger. Et un des aspects les plus fascinants, c'est cette arborisation de plus en plus riche de nos ancêtres et de nos cousins préhumains et humains, et c'est des évidences de plus en plus importantes de métissage entre ces différentes branches. Et donc je crois qu'à la question qui avant était assez simple, qu'est-ce qu'être humain ? La question c'était, quelles ont été les étapes qui ont abouti à la naissance de nous-mêmes, de nos ancêtres, des êtres humains ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être humain ? Une résonance beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressante, c'est combien de façons différentes y a-t-il eu d'être humain ? Et combien de façons possibles y aurait-il pu avoir d'être humain ? Et quelle part portons-nous en nous de ce qui constituait une petite partie de ces autres branches de l'humanité ou de nos ancêtres préhumains ?
Sacrée question ouverte par l'immunologiste et conteur ancien président du Conseil consultatif national d'éthique Jean-Claude Amezen. Bonjour Valérie Zeitoun.
Bonjour et meilleurs vœux puisque c'est encore la...
Absolument, on est en janvier et on peut le souhaiter à tous nos auditeurs où qu'ils soient sur la planète. Merci en tout cas Valérie Zeitoun d'être en direct avec nous autour de ce grand atlas d'Homo sapiens, le premier du genre, le premier atlas géographique du peuplement humain sur Terre que vous avez dirigé avec votre éminent collègue italien, le professeur Telmo Pievani de la faculté de biologie de l'université de Padoue en Italie. Vous-même Valérie Zeitoun, vous êtes paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS, membre du centre de recherche sur la paléobiodiversité. Diversité, aujourd'hui spécialiste de la préhistoire dans le sud-est asiatique. Un des rares paléoanthropologues, il faut le dire, spécialiste de cette région, on va y venir. Mais c'est peut-être justement le fait, Valérie Zeitoun, que vous travaillez sur une zone, disons peu fouillée, et qui ne cesse de révéler de nouveaux fossiles, de nouvelles pistes, en tout cas pour remonter le fil de notre humanité, que vous avez un regard différent, j'ai envie de dire un peu moins décalé, moins européano-centré sur nos ancêtres humains et préhumains.
Alors en fait, j'espère avoir un regard plus décalé que moins décalé en réalité. Et en fait, je serai au centre de recherche en paléontologie avec de nombreux collègues qui travaillent sur d'autres taxons que le taxon humain. Hein, ça va des dinosaures aux ostracodes en passant par tout un tas de taxons. Ce qui fait qu'effectivement, avec nos collègues, on a peut-être une vision un petit peu différente de l'évolution de celle de nos collègues qui sont plus en pointe sur l'homme, au Musée de l'Homme, par exemple.
Alors, vous travaillez avec d'autres collègues sur toute cette biodiversité, paléobiodiversité, mais quand on feuillette cet atlas immense, hein, monumental, j'ai envie de le dire, mais du coup, il y a des photos extraordinaires, des illustrations extraordinaires, quand on feuillette ce grand atlas d'Homo sapiens, c'est d'abord l'extraordinaire diversité des populations humaines, de leurs routes, de leurs cultures, de leurs avancées, parfois de leurs reculs aussi, qui frappe, hein.
Oui, tout à fait. Alors, ceci d'autant plus en 2020, après notre année 2019 que nous avons vécu avec la description d'une espèce humaine supplémentaire.
Homo lusonensis.
Homo lusonensis. Après avoir eu en 2010 l'homme de Denisova, qu'on n'a pas encore appelé Homo denisoviensis ou d'une autre façon. Et puis en 2015, entre les deux, le fameux homme de Naledi. Et puis avant cela, en 2004, l'homme de Flores. parce que jusqu'à la découverte, la description de l'homme de Flores, finalement, l'altérité, hein, qui est évoquée précédemment, eh bien, l'altérité qu'on acceptait, c'était la nôtre vis-à-vis de celle des Néandertaliens. Et ça, c'est une réalité, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que jusqu'à... depuis 30 000 ans, en fait, on est la seule espèce du genre Homo, la seule espèce, donc Homo sapiens, et peut-être même la même sous-espèce, Homo sapiens sapiens, encore vivant sur la planète.
Mais il y en a eu d'autres, et pour le moment, on ne reconnaissait, entre guillemets, que celle qui a cohabité avec nous, disons, un petit peu en tout cas, sur le continent européen, c'est ça. On était complètement européano-centré, pour cause, hein, la préhistoire est née sur le continent européen.
Tout à fait. Avec certains collègues, on a même tendance à dire qu'on est dans une discipline de luxe pour pays riches, et donc ça, c'est l'histoire des sciences, hein. Il se trouve que ces disciplines sont nées dans l'Occident riche du XXe siècle, hein, essentiellement, et donc, XIXe et XXe siècle, et donc on a de fait imprimé notre point de vue, notre vision, et puis la vision qu'on a est aussi le fruit des découvertes que nous avons faites sur nos propres territoires, et dans les territoires que nous nous étions appropriés à ces périodes.
Et notamment sur le continent africain. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire, cette expression « berceau de l'humanité », elle a peut-être un peu vécu parce que tout s'est passé, mais a continué de se passer sur le continent africain, ou berceau à roulettes, ou berceau de l'évolution de notre humanité. Ça, en tout cas, ce n'est pas remis en cause, pour le moment du moins. L'Afrique est bien le continent de nos origines, de nos multiples sorties, de nos multiples évolutions.
Alors, effectivement, l'Afrique reste, au jour d'aujourd'hui, le territoire sur lequel nous avons pu mettre au jour les fossiles les plus anciens de différents taxons, en particulier d'Homo sapiens.
Mais du genre Homo en particulier,
en général.
Hein.
Du genre Homo aussi. Alors évidemment, il y a quelques questionnements qui pointent comme ça vers l'Orient, notamment sur la Chine, avec des choses qui pourraient apparaître de façon synchrone. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, oui, on va dire le fil historique que nous tirons de notre propre histoire, on va dire que la pelote reste africaine.
Autour de la question comment, cette fois-ci, Homo sapiens a peuplé la Terre depuis donc le continent africain, premier éclairage en forme de question soulevée par notre confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
L'émergence de l'espèce sapiens s'est passée dans un endroit en particulier, ou est-ce que c'est vraiment au fil du temps que différentes espèces, populations se sont croisées pour donner sapiens un peu partout? Parce qu'on a retrouvé à la fois les fossiles de Jebel Iroud au Maroc, qui ont 300 000 ans, mais il y a une autre étude parue il y a pas si longtemps qui plaçait le jardin d'Éden un peu de sapiens... ou de l'homme anatomiquement moderne, en tout cas au Botswana, je crois, basé sur l'étude des mitochondries, on a l'impression qu'en fait, il y a eu des foisonnements un peu partout et que tout ça s'est croisé et a donné notre espèce. Ou alors, est-ce que c'est vraiment dans un endroit où l'espèce peut naître?
Que pouvez-vous répondre, Valérie Zeitoun?
Alors, il y a différents niveaux de réponse. Mm-hmm. Parce que là, on a des données donc, qui vont être de l'ordre de la génétique, d'autres de l'ordre des hommes fossiles.
D'autres... Oui, les os ou l'ADN, quoi. Enfin,
voilà.
Très gros. Hein.
Et puis aussi des données qui sont propres, à la géographie. Mais il y a d'autres données. Donc là, je vous ai parlé finalement de l'espace, qui est une certaine dimension, trois dimensions en fait. Le temps, une autre dimension, mais il y a encore une autre dimension qui est celle de la biologie. Et dans cette dimension-là, on peut décrire les choses différemment. Alors la question, est-ce qu'on parle d'espèces ou de sous-espèces? Déjà, c'est une chose. Est-ce qu'on dit ça du point de vue de la biologie, du point de vue de la paléanthropologie? De fait, on va utiliser les mêmes mots, mais qui n'auront pas la même signification. Donc ça peut aussi fausser le questionnement et évidemment les réponses qu'on va en faire.
Quand on parle du genre Homo, le genre Homo met d'accord généticien, biologiste, paléontologiste ou...
Alors, je dirais pas forcément. Alors, ceci pour une raison simple, c'est que quand on compare les choses, on va appeler à ce qu'on va appeler être de la ressemblance ou de la dissemblance. Or, rien que ça, la dissemblance et la ressemblance, c'est en soi une interprétation. Par exemple, nos collègues généticiens vont faire ce qu'on appelle de la ressemblance globale et on va avoir une approche, on va dire, quantitative, de dire ce qui est le plus proche ou le plus éloigné en termes de quantité. Alors qu'il y a d'autres approches en systématique qui vont être qualitatives et pour lequel la ressemblance peut être, par exemple, segmentée en trois critères. Celui d'une ressemblance parce qu'on partage des caractères qui sont dérivés, ou bien on partage des caractères qui sont primitifs, ou bien on partage des caractères qui sont liés à une sorte d'enchevêtrement entre des réversions, des convergences, ce qu'on appelle de l'homéoplasie. Et selon que l'on considère qu'un de ces trois critères est prioritaire sur les deux autres ou qu'on les prend tous ensemble, eh bien à partir de mêmes données, on aura des réponses différentes.
Et autour d'Homo sapiens, justement, est-ce que là, biologistes, généticiens, paléontologues, archéologues sont d'accord sur ce terme, Homo sapiens, puis ensuite Homo sapiens sapiens, c'est une même espèce, mais on sait qu'on a un peu de génome de Néandertal, que ça... Enfin voilà, est-ce que l'arbre buissonnant de nos ancêtres, hein, qui n'est pas un peuplier, disait aussi... ça c'était Yves Coppens qui disait ça, c'est pas un peuplier, mais c'est vraiment buissonnant dans tous les sens, c'est pas chronologique, c'est pas l'un après l'autre, c'est pas l'un au-dessus de l'autre. Comment est-ce que... voilà, Homo sapiens...
C'est ce que je viens de vous dire, hein. Là non plus, tout le monde n'est pas d'accord, et effectivement, c'est même pas un arbre, ça serait plutôt une sorte de buisson... sans souche ou avec une souche centrale, avec une arborescence sphérique, périphérique. Donc c'est beaucoup plus compliqué à voir hein, comme
Et Homo sapiens, c'est quoi? C'est pas le dernier de la lignée, c'est celui qui a survécu, le seul, puisqu'aujourd'hui nous sommes tous de la même espèce humaine sur Terre.
On va dire que Homo sapiens, en tout cas moi je dirais Homo sapiens sapiens, c'est le seul qui reste vivant.
C'est nous.
C'est nous. Alors que peut-être, on peut dire qu'il y a eu d'autres Homo sapiens, mais qui étaient d'une autre sous-espèce. Moi, j'ai tendance à toujours utiliser la notion biologique de l'espèce qui nous dit que finalement, quand il y a un mélange entre deux individus d'espèces différentes, il peut y avoir une descendance, mais elle ne sera pas fertile. En revanche, le critère pour permettre de dire qu'il y a des sous-espèces, quand il y a deux individus de sous-espèces qui sont identiques, alors la descendance pourra être fertile. Et si on considère qu'on a une partie de néandertalien en nous et que ce petit...
En Eurasie, en tout cas.
En tout cas, en Eurasie, à moindre échelle de quand on va de l'Occident vers l'Orient. De même qu'il y a une moindre partie de Denisovien en nous par rapport aux populations de Mélanésie. Alors, j'ai tendance à voulant respecter la définition biologique de l'espèce et de la sous-espèce, à me dire que finalement, on devrait plutôt être des sous-espèces les uns les autres, ce qui permet de faciliter, en tout cas, de donner une compréhension plus simplifiée on va dire, des flux de population d'un territoire à l'autre au cours du temps, avec des goulots d'étranglement, des isolements de population, et puis après un certain temps, de nouveau, des regroupements, des choses comme ça, qui est quelque chose, on va dire, de plus fluide, à la fois dans l'espace et dans le temps.
Et qui arrive aussi à être mieux représenté, et qui, du coup, effectivement, on peut le configurer sur cet atlas, on peut un peu le configurer, et on peut mieux comprendre, voilà, une espèce d'espèce... humaine, Homo sapiens très large, dans laquelle il y aurait différentes branches qui ont survécu ou pas, et celle qui a donné la nôtre, Homo sapiens sapiens.
Dans laquelle il y aurait effectivement différentes populations.
Populations, c'est ça.
Peu importe le nom qu'on va poser dessus. D'ailleurs, la deuxième partie de l'ouvrage hein, parle essentiellement des populations, avec le travail de Telmo, et notamment avec l'aspect génétique des populations. Donc là c'est bien de nous dont il s'agit dans notre diversité, mais cette diversité existe à un autre niveau, je dirais, dans le temps, mais c'est pour ça qu'on parle hein, de phénomène buissonnant, en fait, puisqu'il y a des connexions, du cousinage, comme ça, à différents niveaux.
Et à propos de ce cousinage, Valérie Zitoun, j'ai envie de vous soumettre une autre question, un autre éclairage à propos de toutes ces espèces humaines, vous l'avez dit, Néandertal, Denisovien, et il y en a d'autres en Europe, en Asie, en Afrique, on cesse de découvrir les capacités cognitives, voire même artistiques, hein, de ces autres familles, de ces cousins de notre humanité. Écoutez la question que soulève à ce sujet notre confrère du magazine La Recherche, Philippe Pajot.
Est-ce que la notion d'homme moderne pour Homo sapiens est encore pertinente aujourd'hui?
Et voilà, parmi les classifications, on parlait d'homme moderne et d'homme archaïque. Or, on y reviendra, cet homme de Luzon découvert aux Philippines, ben, il est à la fois archaïque et moderne. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a l'impression, en plus, que moderne, ça veut dire plus avancé, plus évolué.
Je dirais oui et non.
Oui et non, c'est ça.
C'est-à-dire que la modernité, en soi, c'est une qualification de faculté à faire différentes choses. Alors que, pareil, la question sur Homo sapiens égale homme moderne, moi, je dirais non. Pour moi, c'est Homo sapiens sapiens égale homme moderne. On a tendance à abréger ça parce que finalement, Homo sapiens est égal à Homo sapiens sapiens au jour d'aujourd'hui. Donc
oui, parce qu'il n'y a plus que lui, il n'y a plus que nous sur Terre.
Voilà, on a tendance à transposer et on nous associe la modernité, mais il ne faut pas voir la modernité en tant que qualificatif. C'est plus la manière de nous distinguer de néandertaliens, on aurait pu dire les moustériens ou les je ne sais pas quoi, par rapport aux Denisoviens. Pour moi, je vois plus ça comme quelque chose de vernaculaire, mais qui n'implique pas une modernité. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir au cours des différentes recherches depuis ces dernières années, que cette notion alors, de modernité au sens comment dire, qualitative, hein, on l'a retrouvée en fait beaucoup plus tôt que là où on l'avait trouvée initialement en Europe. Et puis, on a vu effectivement que les Néandertaliens avaient aussi des capacités à faire des choses.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on avait l'impression qu'Homo sapiens sapiens, ben, c'était déjà un Européen ou un Occidental qui était plus évolué que ses prédécesseurs. Ça, déjà, c'est tout faux, puisqu'on ne cesse de retrouver de plus en plus loin, sur tous les continents pratiquement, pas tout à fait sur tous les continents, des capacités cognitives, des œuvres d'art, des objets, des
alors, tout à fait, hein, puisque par exemple, on a en Sulawesi des peintures à 36 000 ans. 36 000 ans, c'est...
Sulawesi, c'est...
C'est les célèbres, donc c'est dans l'archipel indonésien. Donc, c'est quelque chose qui est quasiment à l'échelle de l'évolution contemporaine de Chauvet en France. Hein. Donc, là aussi, alors, la question, c'est que du coup, on a tendance à dire que ce sont des hommes modernes qui seraient arrivés là très tôt, qui auraient fait ces peintures. Mais dans ce territoire, nous avons les hommes de Flores, alors que certains appellent Homo floresiensis, que moi, je parlerais plutôt Homo erectus floresiensis, j'en ferais plutôt une sous-espèce.
Pas le hobbit, hein, même s'il est petit.
L'hobbit, c'est sa taille, mais
il n'y a pas que ça qui
l'homme de Luzon ne devait pas être super grand non plus. Mm-hmm. Et puis l'homme de Lanédi en Afrique du Sud, il n'est pas très très grand non plus. Donc en réalité, c'est presque l'inverse. C'est peut-être nous qui sommes grands par rapport à tous ces hommes fossiles qui étaient plutôt plus petits.
Et qui était plus petit, mais qui avait de sacrées capacités cognitives. Bah, enfin,
certainement,
c'est ça,
certainement, hein, puisqu'on trouve des artefacts qui sont similaires de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en tout cas qui véhiculent les mêmes savoir-faire, les mêmes compétences. Et de plus, je dirais, on a peut-être aussi ce schéma en Afrique où les Homo sapiens sont peut-être aussi pluriels. On peut avoir différents Homo sapiens. En Afrique, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui sont regroupés un temps, puis séparés, différenciés, puis regroupés de nouveau, avec des sorties à un moment donné d'Afrique, mais aussi, l'Afrique, c'est quand même 20% hein, de la surface continentale, donc c'est un espace qui n'est pas négligeable, et au sein duquel, eh bien, il a pu se passer énormément de choses.
Et les flèches, pour reprendre ce terme, puisque dans votre atlas, il y a des flèches parfois de déplacement de population, elles ne vont pas que dans un sens, elles ne vont pas que dans le sens hors d'Afrique, enfin, elles vont aussi dans le sens à l'intérieur.
Tout à fait, c'était vraiment quelque chose sur lequel je tenais vraiment, parce que malheureusement, on est dans un ouvrage, donc on est dans un support fixe, on ne peut pas faire ce qui devrait être fait, c'est-à-dire des espèces de nappes qui vont grossir, rapetissir, se faire des coalescences et puis
entre différentes populations
entre différents endroits et ceci au cours du temps. Donc là, il faudrait avoir plutôt une vidéo qu'un livre.
Bien sûr.
Du coup, ce qui a été choisi, c'est de mettre des flèches effectivement dans les deux sens pour bien soutenir le fait que ce que l'on voit surtout, c'est quand il y a des nouvelles entités humaines sur des territoires sur lesquels ils n'étaient pas jusqu'à présent, mais que le chemin dans les autres directions ne sont absolument pas interdits et que très vraisemblablement, ils ont été pratiqués.
Autour de la question comment Homo sapiens a peuplé la Terre, on continue de s'interroger avec vous Valérie Zetoun autour de ce grand atlas d'Homo sapiens et dans tous les sens, hein, à l'écoute de Morgane J sur RFI, artiste réunionnaise aux multiples facettes elle aussi, la guerrière créole chante Homo sapiens sur RFI.
Je fais la guerre depuis l'âge de pierre, à peine debout que je marche à l'envers, je ne sais pas comment je suis arrivée sur Terre et pourtant j'ai du flair. Je connais le bruit du vent et le chant de l'eau, et j'aime la chaleur du feu contre ma peau. Mais faut pas venir me chercher des poux dans ma tête d'Australopithèque. Sous ma peau de bête, rien ne m'arrête. Je fais la guerre et je croise le fer au nom de celui qui guide ma prière. Un jour viendra où je quitterai la terre, mais j'ai pas à m'en faire. Il y a un jardin paisible et beau, plus haut que les montagnes, plus haut que les oiseaux. Faut pas me dire que je rêve debout dans ma tête d'Australopithèque. J'ai un prophète, rien ne m'arrête.
fais la guerre et je traque mes frères à grands coups de hache, à coups de revolver. Je veux plus de tout, surtout plus de terre. J'ai un bateau, je prends la mer. Je découvre des endroits si beaux, des mines d'or où il fait toujours chaud. Et je peux pas me dire que j'en profiterai pas, des boys, des femmes à l'œil et au doigt. J'ai une machette, rien ne m'arrête.
Rien n'arrête Morgan J sur RFI autour de la question comment Homo sapiens a peuplé toute la Terre. Nous sommes en compagnie du paléontologue Valérie Zetoun qui a co-dirigé le grand atlas Homo sapiens, le premier atlas géographique du peuplement humain sur Terre. On l'a vu, il n'y a pas que Homo sapiens, sapiens, notre espèce humaine qui a voyagé, migré et colonisé la Terre. En réponse aussi à une question d'un de nos plus fidèles auditeurs, à Richard Toll, Mokhtar Nyang, sa question nous demande comment justement la Terre a été recouverte pratiquement d'eau, enfin de 70% par les océans. Comment l'Homo sapiens a fait pour peupler jusqu'aux coins les plus reculés de la planète? Avait-il l'ingéniosité nécessaire pour construire des bateaux ou des radeaux? En guise de réponse, Mokhtar, je propose d'écouter l'éclairage de Florent Détroit, le découvreur d'Homo luzonensis, l'homme de l'île de Luzon aux Philippines, qui présente à la fois des caractères archaïques et modernes et qui a lui aussi, comme Homo sapiens, navigué sur les mers pour s'installer sur cette île des Philippines. On écoute Florent Détroit et vous réagirez, Valérie Zetoun, sur ce terrain d'Asie du Sud-Est qui est le vôtre.
Pendant très longtemps, l'hypothèse majoritaire en préhistoire, c'était que seul Homo sapiens, donc nous, était capable de navigation au sens préhistorique du terme, c'est-à-dire capable de franchir des bras de mer conséquents pour atteindre une île. Avec parfois beaucoup de sous-entendus, c'est-à-dire que nous, Homo sapiens, on est très intelligents, donc on est capable de faire ça. Et sous-entendu, les autres espèces, bien sûr, n'étaient pas assez intelligentes. Alors effectivement, l'île de Luzon, on a notre Homo luzonensis, il y a 50 000 ans, 67 000 ans, mais un site de plein air sur la même île de Luzon, qui se situe à une vingtaine de kilomètres de la grotte de Calao, a livré, ça c'est des travaux qui ont été publiés par des collègues à nous, Thomas Indico et d'autres collègues philippins l'année dernière, ont réussi à découvrir sur un site de plein air, dans des niveaux archéologiques datés d'au moins 700 000 ans, des ossements en particulier d'un rhinocéros qui porte des marques de boucherie et des outils de pierre taillée. On est certain que l'île de Luzon, même il y a 700 000 ans, n'était pas accessible à pied sec. Donc il y a plus de 700 000 ans, des hommes sont arrivés sur l'île de Luzon. Alors savoir comment, c'est la grande question, mais la chose dont on est sûr, c'est qu'ils étaient là. Et en fait, si on regarde d'autres îles d'Asie du Sud-Est, Sulawesi, par exemple, en Indonésie, il y a des datations qui indiquent la présence d'hommes il y a au moins 250 000 ans. Et l'île de Flores, il y a également des sites de plein air avec des indices de présence humaine à 800 000 ans et également à 1 million d'années. Donc, on a plusieurs îles dans cette Asie du Sud-Est qui clairement montrent la présence d'hommes très anciennes. Alors, encore une fois, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. On a eu aussi pendant très longtemps l'hypothèse de l'arrivée accidentelle par des rives sur des radeaux naturels. Encore une fois, avec cette idée derrière qu'ils sont probablement arrivés là par accident. Sauf que là, ça fait trois îles colonisées parce qu'ils se sont installés de façon à ce qu'on en retrouve les traces 700 000 ans, 1 million d'années après. C'est probablement des groupes bien installés. Donc je ne vois pas comment on peut envisager au moins trois exemples d'îles colonisées par accident. Alors encore une fois, pour coloniser une île, ça veut dire un groupe suffisamment grand, plusieurs arrivées successives jusqu'à avoir un effectif suffisant pour fonder une population viable. Donc, encore une fois, le comment, on ne sait pas, mais je suis de ceux qui pensent qu'il y avait probablement une idée d'intentionnalité et de navigation dans le fait d'aller dans ces îles, chez des ancêtres très anciens, qui n'étaient clairement pas nous, qui n'étaient clairement pas Homo sapiens.
Et vous, Valérie Zetoun, vous en pensez quoi? Vous voulez réagir à ces propos de Florent Détroit, donc le découvreur de ce nouvel homme de Luzon aux Philippines?
Oui, alors il y a différents éléments de réponse à apporter. Alors sur ce qui est de la navigation, là je répondrai que je n'ai absolument aucun avis et je n'ai aucune théorie. Ceci dit, il livre aussi qu'il y a une faune non humaine qui passe d'île en île. Hein, et pour cela, on ne se pose pas la question.
Oui, comment ils ont fait pour passer? Voilà, est-ce qu'ils sont passés sur des radeaux
humains? A
priori,
pour eux, je serais assez d'accord de dire qu'il n'y a pas de navigation. Mm-hmm. Alors pour rebondir juste sur la dernière chose qu'a dit Florent, c'est, il nous dit que c'est, à coup sûr, ce n'est pas des Homo sapiens. Alors ça, ça va dépendre finalement de ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une interprétation. Mais par exemple, c'est-à-dire la façon de dire les choses, et comme on est dans une approche cartésienne, on va toujours découper les problèmes en tronçons pour essayer de répondre à chaque fois.
En tout cas, ce ne sont pas des Homo sapiens sapiens, pour être juste, ça c'est sûr.
Ça, bah,
pas même pas.
En fait, on pourrait très bien imaginer que c'est le cas, mais ça, ce qui changerait le point de vue par rapport à tout ce qu'on connaît ailleurs. Donc, en tout cas, pour l'instant, je dirais qu'on ne peut pas répondre à ce point de vue-là. Mais ce sur quoi je veux répondre, c'est sur l'association de l'âge et du nom de l'espèce, finalement. Alors, je vais prendre un cas justement à l'opposé. Je vais aller de l'autre côté de l'Eurasie et je vais prendre le cas de l'Espagne. Quand les collègues espagnols ont défini Homo antecessor, au départ, en 1998...
Sur le site d'Atapuerca.
Atapuerca, ils ont vu les différences anatomiques et ils ont posé comme postulat que l'Homo antecessor, c'était l'ancêtre commun des Homo sapiens, nous, et des Néandertaliens. On va dire de l'homme moderne et des Néandertaliens. Alors, si on s'en prend, on en reste à cette règle-là et qu'on décompose les choses, imaginons qu'on appelle les hommes modernes Homo sapiens sapiens, et les Néandertaliens, Homo sapiens Néandertalensis. Dans ce cas-là, ce qui serait commun aux deux, ça serait Homo sapiens tout court. Donc ça voudrait dire, dans ce cas-là, si, là on fait de l'arithmétique avec les mots, mais bon, ça voudrait dire qu'Homo antecessor égale Homo sapiens. Et cet Homo antecessor, il a 800 000 ans.
C'est vraiment l'antécesseur, hein, le sacré ancêtre.
Mais
hein.
si on l'appelle Homo sapiens, il a toujours 800 000 ans. Donc vous voyez que la façon dont on a de décrire les choses, on pourrait très bien. Et de même qu'il y a des collègues qui ont trouvé en Érythrée, en Éthiopie, des crânes à Dhaka, à Bouga, des fossiles pour lesquels les auteurs, les découvreurs, les inventeurs de ce matériel humain ont décrit quelques caractères d'Homo sapiens. Alors, d'un certain point de vue, si on a une approche qualitative, on pourrait très bien dire qu'à partir du moment où il y a quelques caractères d'Homo sapiens, ce sont déjà des Homo sapiens.
Donc on voit bien que ce sont... Voilà,
et ces fossiles-là ont plus d'un million d'années. Donc là, on peut tout à fait... changer le point de vue et décrire l'histoire différemment, uniquement à partir de ce qu'on prend comme postulat de base.
Oui, c'est ça. C'est vraiment des catégories que nous mettons. Ce sont des catégories qui aident les préhistoriens, les paléontologues à interpréter aussi ce qu'ils trouvent. Et pourquoi est-ce que... Donc, on a bien compris qu'il y a l'Afrique, continent énorme sur lequel... il y a nos origines, mais sur lequel il y a eu des allers-retours. Il y a l'Europe, l'Occident, il y a l'Eurasie. Et pourquoi est-ce que la région sur laquelle vous travaillez, où ont lieu de nombreuses découvertes, où ce sud-est asiatique immense, pourquoi il a été si peu fouillé? Et pourquoi aujourd'hui on s'y intéresse? Et est-ce qu'on pourrait imaginer trouver là aussi sans cesse de nouvelles... Alors, ce n'est pas des espèces, de sous-espèces qui remettraient les choses en question ou d'autres espèces du genre homo?
Alors, peu importe ce qu'on trouve, finalement. Mais d'un point de vue de l'histoire des sciences... moi, j'ai tendance à dire que l'Asie du Sud-Est a été finalement le vrai berceau de la discipline, la paléanthropologie, hein, puisque Eugène Dubois, ce jeune médecin hollandais, décide un jour de s'engager dans l'armée hollandaise pour aller sous les tropiques chercher le chémon manquant, puisque c'est ce qu'on cherchait à l'époque.
Mais c'est ça.
Et c'est en Indonésie qu'il trouve le premier Homo erectus. Hein, et donc, je ne raconte pas toute l'histoire, parce que sinon, il nous faudrait plusieurs heures. Mais ça, c'est une étape de la recherche. Donc, l'origine, finalement, de la paléanthropologie, c'est l'Asie du Sud-Est. Et puis ensuite, les autres, entre guillemets, chaînons manquants, on les a trouvés plutôt dans les années 60, 70, en Afrique de l'Est, avec l'Australopithèque. D'abord en Afrique du Sud, mais essentiellement en Afrique de l'Est. Ce qui fait qu'on a eu un déplacement de ce centre d'intérêt de recherche avec, si on veut être caricatural, je dirais cet effet réverbère. Vous connaissez cette histoire de l'alcoolique qui cherche ses clés. Il les cherche toujours dans le halo de lumière. Eh ben, les paléanthropologues, je ne dis pas que ce sont tous des alcooliques, mais ils vont aussi chercher les fossiles, là on en a déjà trouvé,
c'est
parce
ça.
Qu'il y a plus de chances d'en trouver.
Donc sur le rift est africain, notamment,
donc,
et en Afrique
plutôt
du
là.
Sud.
Mais bon, on a eu aussi des cas tout à fait intéressants, notamment la découverte des premiers australopithèques en dehors de l'Est, en tout cas à l'ouest du rift africain, avec des travaux qui étaient considérés comme presque farfelus pendant 30 ans, jusqu'à la découverte d'Abel, puis de Toumaï. Donc voilà,
donc, au Tchad, du côté du Tchad.
Très très loin du rift et en plus à l'ouest. Donc comme quoi, c'est intéressant d'aller chercher dans des contrées où jusqu'à présent, on n'a rien trouvé.
Et oui, pas et juste chercher sous la lumière et voilà. Là où sont les autres fossiles. Voilà pourquoi vous vous y êtes. En plus, il y a à chaque fois, on s'en rend bien compte, hein, quand vous nous dites que finalement la discipline est peut-être née du côté de l'Indonésie et puis qu'il y a aussi un regard très européano ou occidentalo-centré. C'est aussi le fait que la préhistoire, les premiers hommes, alors quand on cherchait le chaînon manquant ou le premier représentant de la race humaine, ce sont des questions éminemment, je ne sais pas, diplomatiques, quasi géopolitiques, parce qu'aujourd'hui, il y a les Chinois qui font de nombreuses fouilles et qui aimeraient bien dire que c'est la Chine, alors, le berceau de l'humanité.
C'est vrai aussi que du côté de la Chine, on a un peu de mal à avaler qu'on puisse avoir, quand on est Chinois, une origine africaine. Et donc, il y a vraiment un poids politique sur toutes ces recherches. Ce qui fait qu'il y a une tradition chinoise de recherche qui est implantée dans le temps, hein, depuis le début du XXe siècle. Et puis là, d'ailleurs, ça, c'est intéressant, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de vision occidentale, de période coloniale. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas rapprocher finalement ce que nous faisons, ce type de recherche, à l'hégémonie économique des pays ? Et en ce moment, l'hégémonie est en train de basculer petit à petit vers la Chine. Et la recherche chinoise est de plus en plus importante sur ces domaines-là. Et en l'occurrence, on aimerait bien avoir les fossiles les plus anciens du jour au mot en Chine. Et c'est vrai aussi qu'il y a quelques indices qui vont dans ce sens, malgré tout, indépendamment.
C'est-à-dire que finalement, on trouve ce qu'on cherche ou là où on cherche. Parce qu'en fait, c'est compliqué, cette science paléontologique, archéologique, alors, qui est éclairée aujourd'hui autrement par la génétique. Mais la génétique ne dit pas tout. Il faut trouver des... il faut trouver des restes, alors, et pour ça, il faut les chercher dans certains endroits, et selon ce qu'on trouve, et on ne cherche que dans certains endroits, selon la géopolitique du moment.
En tout cas, on ne trouve que ce qu'on cherche, généralement. Parfois, il y a des bonnes surprises, mais bon, on était dans une démarche de recherche. Effectivement, la génétique ne dit pas tout, et en tout cas, en ce qui concerne l'espèce Homo sapiens, elle ne nous dit des choses que sur, finalement, une partie qui est la plus récente de notre espèce, de notre sous-espèce, certainement même, d'ailleurs. Encore que, hein, on a des données maintenant sur les Denisoviens, sur les Néandertaliens, sur d'autres. Alors, il y a une zone d'ombre aussi sur la zone asiatique. Il y a tous ces hommes de Solo. On a
les hommes de Solo.
Qui sont ces humains fossiles qu'on a longtemps appelés des Homo erectus évolués. En tout cas, pour lesquels, avec Florent et Dominique Grimaud notamment, nous avons pu faire converger des points de vue différents et montrer que, effectivement, c'était deux entités asiatiques différentes, avec d'un côté de vrais Homo erectus et puis des Homo. Alors là, on n'était pas forcément d'accord tous les trois.
Sur comment les nommer ?
Moi, j'avais tendance à les appeler Homo sapiens soloensis, Dominique Homo erectus soloensis et Florent, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, la façon dont on va décrire les choses, ça voudrait dire que là aussi, on aurait non plus six, mais une septième espèce ou une septième sous-espèce.
En Asie, pour le coup.
Par rapport à l'homme de Naledi, l'homme de Flores, Néandertalien, Denisovien, etc., on aurait une autre entité. En fait, elle, on la connaît depuis longtemps, mais on ne l'a pas reconnue comme étant différente.
Autour de cette question, justement, combien de nouvelles entités, espèces, sous-espèces pourront-on découvrir sur vos terrains asiatiques ? Nouvelle interrogation pour le paléoanthropologue que vous êtes, soulevée par Loïc Mangin, auteur scientifique, on l'écoute.
En gros, on a découvert il n'y a pas très longtemps notre cousin d'Asie, Homo denisovien, ou c'est Homo sapiens denisovien d'ailleurs. C'est sans doute une question un peu naïve, mais dans quelle mesure on peut supposer qu'on n'ait pas encore d'autres cousins à découvrir dans cette région-là ?
Alors, Valérie Zeytoun, est-ce qu'on va découvrir d'autres cousins ?
Je pense qu'on les a déjà découverts en quelque sorte, puisque là, c'est intéressant d'un point de vue du rôle de la discipline et vis-à-vis des médias. Il y a nos collègues, notamment des collègues de Toulouse, je pense à François-Xavier Rico, qui avait, avec ses collègues, mis en évidence qu'au sein des Denisoviens, il y avait trois catégories, trois populations différentes, dont une était suffisamment différente des deux autres pour pouvoir être peut-être une espèce supplémentaire.
On rappelle que les Denisoviens, ils ont été découverts très peu d'éléments.
Alors, au départ, on les a identifiés uniquement sur la base de l'analyse génétique. On a vu une différence notable par rapport aux Néandertaliens et aux hommes modernes, avec là aussi des interprétations qui ont différé en fonction de l'évolution des techniques, selon qu'on travaille sur l'ADN nucléaire ou mitochondrial, par rapport au cousinage avec les Néandertaliens et les hommes modernes, ça a un petit peu changé, et de nouveau encore récemment, en comparant avec l'ADN des hommes d'Atapuerca. Mais voilà, en tout cas, pour parler de la façon d'exprimer les choses et de montrer les découvertes, il se trouve que cette, cet élément qui est sorti l'année dernière, en 2019, est passé inaperçu uniquement parce que ça a été trouvé entre la découverte de l'homme de Luzon et la photographie du trou noir.
Ce qui fait donc que les Denisoviens sont passés à la trappe
donc
complètement.
Donc en tout cas, cet élément il est passé dans une trappe médiatique, si je puis dire, alors que c'est tout aussi intéressant que les deux autres événements médiatiques. Et puis, il y a eu un phénomène à peu près équivalent plusieurs années auparavant, quand des collègues de mon laboratoire et Zenaï, qui est éthiopien, qui travaille aux États-Unis, ont découvert un australopithèque juvénile, lui aussi. On n'en a pas tellement parlé, alors que c'est fondamental d'avoir une idée de l'ontogénie, c'est-à-dire des évolutions, de la croissance des individus dans une espèce donnée. On n'en a pas tant parlé que ça par rapport à d'autres fossiles. Là aussi, il y a eu une sorte d'ombre médiatique. Donc,
on a un regard qui est un peu biaisé. Alors, selon effectivement, si nous, les médias, on parle de telle ou telle découverte, Denisova, on en entend parler, mais il est moins. Effectivement, dans le grand public, on ne sait pas trop qui c'est. Il y a un regard biaisé selon les lieux. Effectivement, vous dites c'est manque de bol. En même temps, il y avait d'autres actus scientifiques et la science ne fait pas toujours la une des médias.
Alors, en même temps, l'homme de Denisova, c'est 2010, avec les progrès de la génétique sur le matériel, on va dire. Sur l'ADN ancien. Et puis, on a donc reconnu une entité différente. Et puis, avec les progrès, on voit qu'il y a des variations aussi au sein de cette entité-là. Et puis, on a fini par en voir un petit bout au sein du génome, qui est celui qui est, on va dire, le nôtre. Et donc, là, on voit qu'il y a eu effectivement des échanges. Donc, on n'est effectivement pas à l'abri en fonction des populations qu'on va séquencer à l'avenir, et puis éventuellement des fossiles qu'on va séquencer. Là aussi, il y a aussi une autre possibilité qui est déjà évoquée par certains collègues. C'est-à-dire que les Denisoviens, on en connaît peut-être déjà, il y en a peut-être déjà dans les musées, mais on ne les a pas encore identifiés comme tels.
On ne sait pas que ce sont des Denisoviens. Autour de la question comment Homo sapiens a peuplé toute la Terre, vous avez ramené Valérie Zeytoun de vos campagnes de fouilles en Asie du Sud-Est, des musiques pas préhistoriques du tout. Voilà ce que vous écoutez, je crois, avec vos collègues thaïlandais, ça vaut le détour. C'est le groupe Fly, en exclusivité sur la Radio Mondiale. Et vous nous direz un peu de quoi ça cause après. Le groupe rock thaïlandais Fly sur RFI. Merci de nous ouvrir les oreilles. Valérie Zeytoun, et de quoi, que racontent-ils ces rockers thaïlandais?
Alors, je ne pourrais pas vous faire une exégèse et la finesse du texte, mais en gros, ça dit que nous ne sommes pas que des animaux, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains et c'est nous qui décidons.
Ah.
Enfin, voilà, ce n'est qu'un point de vue sur cet atlas qui était émis avant même que l'atlas soit publié. Mais voilà,
c'est
petit clin d'œil d'un certain point de vue sur qui nous sommes.
Qui nous sommes, nous, Homo sapiens sapiens, autour de ce grand atlas d'Homo sapiens, et autour de la question comment Homo sapiens a peuplé toute la Terre. Je propose d'imaginer ensemble tous les scénarios, ou d'autres scénarios possibles, en Afrique, depuis l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Europe, vers l'Orient, avec d'autres espèces humaines ou d'autres sous-espèces humaines tout aussi évoluées cognitivement et artistiquement que nos ancêtres, en compagnie d'un autre éminent chercheur en préhistoire et évolution humaine que vous connaissez bien, Valérie, c'est Francesco Derico, qui a, entre autres, participé à la découverte du plus ancien dessin au crayon découvert en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos, 30 000 ans plus tôt que ce que les préhistoriens s'attendaient. De quoi ouvrir du coup sur de nouvelles hypothèses, de nouveaux scénarios autour de la question pourquoi et comment nos ancêtres, au sens large, ont peuplé la Terre. On écoute Francesco Derico.
On peut s'imaginer un scénario avec plusieurs trajectoires culturelles régionales de populations qui parfois rentrent en contact. Et c'est ces trajectoires culturelles qui font face à des changements climatiques. Et parfois, ce challenge climatique se produit des innovations, parfois produit la perte d'innovations, peut-être que parfois aussi pour causer la perte des populations. Et ce qui est intéressant en regardant le processus de cette façon, c'est qu'on peut abandonner l'idée d'une seule cognition moderne issue d'un processus de spéciation unique qui se serait produit en Afrique, par exemple dans l'Est africain. Donc on est face à quelque chose de plus complexe, mais je dirais à la fois plus intéressant, parce qu'on voit une phase de 300-400 000 ans au cours de laquelle plusieurs populations humaines ont innové. Parfois ces innovations se sont maintenues et dans d'autres cas, au contraire, ont été perdues. Et dans certains cas, ils ne se sont pas produits jusqu'à des époques assez récentes.
Vous en pensez quoi, Valérie Zeitoun ? C'est peut-être cette approche-là hein, qu'il faudrait avoir de d'aller-retour, d'avancée et de recul.
Alors, ce que nous dit Francesco est intéressant plus d'un titre, mais je prendrais plutôt le point de vue, on va dire, anthropocentré et même européocentré. Parce que finalement, ce que nous dit Francesco, c'est que ce qu'on croyait être le propre de l'homme moderne européen existe en Afrique 30 000 ans avant ce qu'on voit en Europe, d'une part. Ce qu'il ne dit pas ici, mais c'est qu'il y a aussi des éléments ailleurs, dans d'autres contrées. Et finalement, ce dont il est question ici, c'est effectivement, on voit qu'il y a une pluralité de trajectoires. Je préfère cette notion de trajectoire, celle d'autoroute ou de route, hein, parce que
oui,
en fait, on serait plutôt dans des chemins de traverse et on n'arrive pas à bien identifier. On
a plutôt... c'est pas des migrations, c'est pour des trajectoires, des déplacements.
Il faut vraiment voir ça comme des... on va dire, nous, on a des pointillés, et on a tendance à mettre des flèches, mais bon, c'est un résumé qui est beaucoup trop simpliste. Évidemment, des allers-retours dans tous les sens. Et puis, ce qu'il en reste, là, c'est par rapport aux données qu'on a actuellement.
À ce qu'on trouve sur le terrain.
Mais ce ne sont pas des vraies dynamiques. Et en même temps, ce que nous dit Francesco, ce qui est intéressant, là, entre le... Finalement, il nous fait un pendant entre le volet culturel ou cognitif et l'évolution. Et c'est l'occasion pour moi ici de rappeler que finalement, cette évolution décrite par Darwin, hein, où on voit que finalement, c'est au niveau de la biologie, ce sont les plus forts qui vont pouvoir se reproduire, etc. Et bien, au niveau culturel, ce n'est pas du tout le cas. Hein, c'est ce que Patrick Thor appelait une sorte de darwinisme inversé. Ou réversible. Et où, finalement, dès qu'on est dans le culturel, on s'aperçoit que finalement, ce qui compte, c'est l'empathie, c'est la coopération. Et c'est ça qui permet d'aller plus loin. Et c'est ça qui permet de faire de nouvelles découvertes. Alors que ce soit, évidemment, pour les hommes préhistoriques, mais aussi au CNRS, en passant. cette vision des choses où on va dire... Où finalement, c'est vraiment ce qui fait, de même pour la recherche, hein, c'est la coopération qui nous permet d'apporter des résultats. Eh bien, au niveau préhistorique, on commence à avoir des choses beaucoup plus fines. Alors ça, c'est grâce aux efforts des différents collectifs qui vont sur les différents terrains. Donc, on a des visions plus fines, mais parfois aussi plus confuses, puisque plus on a de données, plus c'est compliqué parfois de les mettre en harmonie.
En tout cas, on sort complètement de l'image de la brute préhistorique, petit à petit. Enfin, ça, on est complètement en dehors de ce schéma-là, complètement.
On est à la fois sorti des brutes et aussi sorti de cette vision, je dirais, idéalisée, entre guillemets, jardin d'Éden, où tout est beau, tout le monde est gentil.
Oui, pas non plus.
Ça n'existe pas non plus. Donc voilà, on est face à une réalité qui est différente. Et un des vrais problèmes, je pense, sur lequel on a beaucoup de mal à quantifier, c'est l'effet démographique. En quel nombre étaient ces différentes populations? Ça, c'est compliqué.
Vous basez sur les ossements que vous retrouvez.
C'est difficile. Alors, il y a eu quelques études qui tendent à dire que peut-être que les hommes modernes auraient été plus dynamiques biologiquement ou génétiquement que les Néandertaliens.
Il y a peut-être plus d'enfants.
Voilà, ou alors ils rapportent ça à la à ce qui pourrait être la structure familiale, des choses comme ça. Ça, c'est difficile de le démontrer. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, si on peut parler de progrès, en tout cas d'une des évolutions les plus récentes de notre population, ça reste notre maîtrise de la fécondité. Avec 1951, l'invention de la pilule, eh bien, là, on est dans une vraie révolution puisqu'on a la maîtrise de générations futures. Mmh. Et une fois encore, on voit que ce sont les femmes qui portent ce poids, cette responsabilité que leur font porter les hommes, puisque la pilule, elle est féminine, comme tout le monde le sait.
Je vois que le paléoanthropole que vous êtes est bien dans notre actualité. Alors, où est-ce que Valérie Zeitoun, vous allez repartir sur votre terrain sud-est asiatique? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver?
Alors, en fait, moi, il se trouve que je suis sur un terrain où, comme je l'ai dit, il y avait pas beaucoup de... il y a moins de chercheurs qu'ailleurs. Aussi bien des chercheurs étrangers qui vont dans ces contrées-là que de collègues dans ces pays-là. Donc, il se trouve que j'ai plutôt à gérer ce qu'on trouve de façon plus ou moins aléatoire. Même si on recherche des hommes fossiles, de temps en temps, on trouve des sites plus récents. Il faut les gérer parce que ça fait partie aussi, je dirais, de la reconstruction de l'histoire.
Mais oui, il n'y a pas que les humains, il y a tout l'environnement et tout le vivant.
Voilà, il faut essayer de valoriser tout ce qu'on trouve dans une contrée où finalement on commence à voir un modèle qui se dessine, qui n'a rien à voir avec le modèle universaliste et presque hégémonique qui était celui de la préhistoire européenne qu'on a essayé de plaquer partout.
Par exemple, en Asie, ce n'est pas le cas.
Alors, juste un exemple. Oui. Hein, sur l'Europe, on a, vous savez, ces cultures qui vont de l'Acheuléen, Moustérien, Aurignacien, etc. Et bien sûr, ces 30 000 ans, ces 30 derniers millénaires, en Asie orientale, on n'a que ce qu'on appelle l'Oabinien, une culture sur galets, avec rien d'autre du point de vue du matériel lithique. Alors, sans doute, faut-il chercher l'évolution, puisqu'on ne peut pas penser qu'une société ou des sociétés n'évoluent pas pendant 30 000 ans. Alors, peut-être du côté du végétal, des comportements, d'autres choses. Mais en tout cas, c'est différent de ce qu'on connaît aussi bien en Europe et à moindre titre, même si c'est plus enraciné dans le temps, en Afrique.
D'où l'intérêt d'aller continuer à fouiller. Je crois que vous cherchez des bras ou de jeunes étudiants en Asie. Donc, on fait toujours un petit appel à nos auditeurs. Merci en tout cas, Valérie Zeitoun, d'être venue en direct partager vos recherches et puis toutes ces pistes d'interrogation à découvrir. En plus, dans ce très bel et grand atlas Homo sapiens, coédité par les éditions Glénat avec Le Monde. Et puis, je signale aussi un autre ouvrage consacré à Sapiens Sapiens, à l'œil nu, dirigé par le préhistorien François Bon aux éditions du CNRS. Merci Valérie Zeitoun et vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et auditrices, pour nous interroger sur la reine des questions, le pourquoi, avec le philosophe et historien des sciences Philippe Huneman. Autour de la question, pourquoi tant de pourquoi, à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.